Popol, le podcast politique
qui donne la parole aux femmes. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. Bonsoir à nouveau, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Nous nous retrouvons ce soir pour parler des liens entre féminisme et syndicalisme. Tout au cours de cette discussion que j'aurai le plaisir d'animer, nous allons explorer les différents enjeux que cela comporte, que cela implique. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter du coup les invités qui ont bien voulu accepter et participer à ce podcast ce soir. On va commencer avec toi, Sophie Binet.
Bonsoir.
Bonsoir, vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. Alors Sophie, tu as une actualité importante. Tu as récemment pris la tête d'un des principaux, voire le principal syndicat de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en quelques mots et nous raconter qui tu es?
Je peux plus dire lol maintenant. Donc je suis secrétaire générale de la CGT. Mon métier, c'est pas ça, parce que syndicaliste, c'est pas un métier, c'est un engagement militant. Mon métier, c'est d'être conseillère principale d'éducation en lycée professionnel. J'ai commencé à travailler dans les quartiers nord de Marseille, puis ensuite au Blanc-Mesnil, en lycée professionnel toujours. Et puis ensuite, d'un point de vue militant, j'ai commencé à militer quand j'avais 15 ans au lycée, en réaction aux inégalités sociales que je voyais quand j'étais au lycée. Donc j'ai commencé, j'étais à la JOC. J'ai fait du soutien scolaire dans un quartier de Nantes, la ville où j'habitais. Et puis, il y a eu des mobilisations lycéennes, donc je me suis engagée. Puis j'avais construit une forme de proto-syndicat. Je savais pas ce que c'était qu'un syndicat. Donc de fait, ça s'appellerait syndicat, mais qu'on a fait tourner toute l'année de terminale. Puis quand je suis arrivée à la fac, je me suis engagée dans un syndicat étudiant, donc c'était l'UNEF. J'ai été membre de la direction de l'UNEF pendant la mobilisation contre le CPE, donc ça a été une lutte très importante pour moi. Et puis ensuite, quand je suis arrivée au travail, je me suis syndiquée à la CGT, qui était la référence pour moi. Je suis arrivée à la direction de la CGT il y a 10 ans, et les choses dont je m'occupais avant d'être secrétaire générale de la CGT, c'est d'abord j'étais secrétaire générale de la CGT des cadres et professions intermédiaires, puisque la CGT, elle organise aujourd'hui majoritairement les ouvriers employés, mais aussi les cadres et professions intermédiaires, donc avec des questions spécifiques par rapport à leur responsabilité au travail. Et puis, j'étais en charge des questions féministes à la CGT, dont je m'occupais depuis 2013-2014. On va y revenir dans cet échange, mais notamment, on a fait un site internet qui s'appelle égalité-professionnelle.cgt.fr, sur lequel vous pouvez trouver toutes les productions, tous les outils de la CGT sur le sujet.
Super, merci beaucoup d'être là. Notre deuxième invitée de ce soir, Rachel Kéké. Bonsoir Rachel.
Bonsoir. Merci.
Rachel Kéké. Merci beaucoup d'être là, je te laisse te présenter.
Ok, merci. Rachel Kéké, ancienne femme de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et mes collègues et moi, nous avons mené une lutte pendant 22 mois face au groupe Accor, où nous avons été victorieuses de cette lutte. Et maintenant, élue députée à l'Assemblée nationale dans la 7e circonscription du Val-de-Marne de la NUPES. Voilà, merci.
Merci beaucoup d'être là ce soir.
Merci.
Et troisième invitée aussi ce soir avec nous, Aurore Cochelin. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Aurore, tu es sociologue, on peut dire ça, n'est-ce pas?
Oui, je pense que maintenant c'est officiel.
C'est officiel, ça y est.
J'ai eu un poste à l'université, ce qui n'est pas évident ces temps-ci. Donc voilà.
Bravo. Mais tu es aussi autrice.
Et tout à fait.
Je te laisse.
J'ai publié un premier livre en 2019 intitulé La Révolution féministe, qui est un essai en fait sur le féminisme qui propose à la fois de faire un peu un état des lieux des différentes vagues du féminisme et des différentes théories qu'il agite de façon assez simplifiée pour pouvoir se réapproprier en fait ces notions et qui pose aussi la question de la stratégie pour le mouvement féministe. Et plus récemment, donc l'année dernière, en 2022, j'ai publié un livre tiré de ma thèse, La norme gynécologique, autour des enjeux de gynécologie contemporain. Mais malgré tout ça, je suis aussi militante. J'ai un peu cette double casquette. De toute façon, ça se sent, je pense, dans la révolution féministe. Féministe depuis fort longtemps, mais aussi syndicaliste. J'ai été syndiquée à Sud Étudiants, qui est devenu Solidaire Étudiant entre-temps. Aujourd'hui, à Sud Éducation. Et je suis aussi militante du NPA depuis 10 ans. Voilà.
Super. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là ce soir. On va commencer peut-être cette discussion avec toi, Sophie, pour nous dire un peu comment tu analyses ce changement un peu inattendu à la tête des syndicats en France. Syndicat qui est souvent considéré, comme beaucoup de lieux de pouvoir, comme étant aux mains des hommes, généralement, et où la place des femmes et des minorités de genre reste encore compliquée. Difficile de bousculer un peu l'ordre établi, notamment dans ces structures. Tu es donc toi à la tête de la CGT désormais. Marie-Lise Léon a pris la tête de la CFDT. C'est quand même assez inédit et c'est un changement qui est quand même assez positif, on peut le dire.
Ouais, tout à fait. Alors, deux choses. D'abord, changement inattendu pour vous de l'extérieur, mais ce changement, il n'est pas arrivé par hasard. Et ça, c'est important de se le dire, c'est que on n'amène jamais des femmes à la direction d'une organisation, quelle qu'elle soit, mais notamment d'une organisation militante, comme ça, d'un claquement de doigts sur un malentendu. C'est le résultat de luttes féministes dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur. Et donc, pour ce qui concerne la CGT, c'est le résultat d'une dynamique féministe de moyen-long terme et du fait que nous avions décidé que, quelle que soit la décision, il fallait que ça soit une femme qui soit secrétaire générale. Et ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait parce que l'engagement féministe de la CGT, donc il date pas d'hier, en fait, il y a eu des femmes dans la CGT depuis que la CGT existe, depuis 1895, le congrès de fondation de la CGT il y a 120 ans, il était présidé par une femme qui s'appelait Marie Saderne, qui était corsetière. Et pourquoi est-ce que c'était elle qui présidait la séance de ce congrès de fondation? C'était la seule femme, elle était présidente, parce qu'elle était en grève depuis 120 jours, et donc c'était elle qui avait la légitimité de la lutte. Donc il y en a toujours eu. Pour autant, franchement, c'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire des femmes dans la CGT et dans le syndicalisme, avec des luttes progressives. Et puis il y a toujours des effets, des risques d'effets boomerang. Donc ça n'a pas été non plus univoque. Et donc là, le fait que pour la première fois il y ait une femme secrétaire générale de la CGT, c'est le résultat de toutes ces luttes. Et donc on avait une organisation, une activité structurée féministe, en gros depuis 1945, dédiée sur l'activité femme. Mais on se définit comme féministe seulement récemment, parce que bon, moi j'ai pas attendu ça pour définir la CGT et moi comme féministe, mais en tout cas ça date seulement d'il y a 5 ans, le fait que la CGT se dise féministe en définissant son féminisme syndical. C'est-à-dire, je pense qu'il y a différentes visions du féminisme, c'est aussi l'objet de débats. La CGT, elle est sur un féminisme lutte des classes, c'est-à-dire qui traite au même niveau les rapports d'exploitation liés au capitalisme avec les rapports de domination liés au patriarcat. Et ça, c'est un sujet qui a fait débat, qui fait encore débat dans le féminisme. Et nous, c'est la particularité aussi qu'on apporte dans les débats liés au féminisme. Et deuxième point, donc ça s'est pas arrivé par hasard. Et il faut surtout pas que le fait d'avoir deux femmes secrétaires générales des deux principaux syndicats, c'est super, mais c'est pas l'arbre qui cache la forêt et c'est surtout pas la fin de l'histoire. Parce que si on se dit ça y est, on y est arrivé, c'est fini, on peut ranger les banderoles, c'est sûr que là il y aura un recul majeur et rapide. Donc pour moi, le signal, c'est pour la CGT d'amplifier le travail féministe de la CGT à tous les niveaux pour pouvoir féminiser les syndiqués, les directions syndicales à tous les niveaux, sachant qu'on fait un travail de longue date sur ce sujet sur lequel je pourrais peut-être revenir si vous le souhaitez.
Pour éviter précisément cet effet un peu boomerang, retour en arrière qu'on pourrait
dont tu parlais, en fait, éviter que ben, demain, les choses ne soient pas aussi évidentes, qu'aussi il y ait un semblant de parité de façade où les compétences, en réalité, sont toujours aux hommes et non pas aux femmes. Donc ça, c'est une des techniques, c'est vraiment vous implanter durablement. Ça, c'est par ça que vous arrivez à vous implanter durablement ?
On a plein de techniques. Alors déjà, toute cette histoire, on la raconte dans un livre qu'on a sorti il y a 3 ans qui s'appelle « Féministe, la CGT, point d'interrogation », où il y a à la fois l'histoire des femmes dans la CGT. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de pas invisibiliser les luttes féministes et les femmes dans la CGT, les luttes de femmes qui souvent ont été féministes et qui sont très invisibilisées. Donc ce livre, déjà, leur rend hommage, fait mage, on peut dire d'ailleurs. Et puis, il dit aujourd'hui quelle est notre stratégie féministe dans la société, au travail et dans la CGT. Et donc, notre stratégie, en tout cas dans la CGT, c'est d'abord qu'on sait qu'il faut mettre des lunettes pour voir. Si on n'a pas les bonnes lunettes, on ne voit pas. Donc, on fait des statistiques de genre à tous les niveaux sur combien il y a de femmes syndiquées, combien il y a de femmes en responsabilité, combien il y a de femmes en première responsabilité. Ces statistiques, on les présente chaque année, comme ça, on regarde les reculs et les progressions. Ensuite, on a des formations internes et un travail sur un certain nombre de leviers. Et puis, il y a la question des violences sexistes et sexuelles. On ne peut pas féminiser les organisations syndicales et féminiser les responsabilités si il n'y a pas un travail volontariste sur cette question-là, sachant que pour nous, ça commence par, et ça fait très longtemps qu'à la CGT, c'est acquis, le fait de dire de façon très transparente, très tranquille, il y a des violences dans toute la société, donc il y en a aussi dans la CGT. Et c'est en se disant ça qu'on peut ouvrir la parole et s'organiser pour lutter et les éradiquer. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Chez moi, il n'y a pas de problème de violence sexiste sexuelle », c'est là que mes antennes s'allument en me disant « Oh là là, attention, il y a un problème parce que ça veut dire que le sujet est tabou ». Donc ça fait longtemps qu'on le dit. Et moi, quand je suis arrivée à la CGT, il y avait déjà des cadres non mixtes dans lesquels on pouvait se dire les choses et on ouvrait la parole. Et ensuite, on a mis en place, donc il y a 5 ans, un peu avant MeToo, une cellule de veille contre les violences sexistes sexuelles. On a adopté, il y a 6 mois, un cadre commun d'action sur qu'est-ce qu'on fait quand il y a des militantes de la CGT qui sont victimes. Donc c'est des étapes importantes, mais sur cette question-là, c'est pas non plus la fin de l'histoire. On n'est pas encore parfait, et donc il faut encore qu'on progresse par étapes sur cette question-là.
Merci beaucoup. Aurore, je me tourne vers toi parce que c'est vrai que ta passion, un de tes hobbies, c'est du coup de regarder un peu les rapports entre syndicalisme, féminisme. Sophie faisait état d'un rapport compliqué qui n'a pas été toujours très simple, notamment au cours de l'histoire. Toi, dans ton livre La Révolution féministe, tu le pointes très bien. Tu expliques qu'effectivement, il y avait cette tendance au sein des syndicats, mais aussi de la lutte sociale de manière générale, à considérer que finalement les questions de genre étaient presque accessoires et qu'il a fallu du temps pour que, typiquement, ben, le travail reproductif soit pris en compte au sein des milieux militants, ouvriers, mais aussi des syndicats, etc. Est-ce que tu as le sentiment, et aussi avec cette dernière mobilisation sur la réforme des retraites, où on a vu quand même que les féministes étaient vraiment présentes dans les cortèges, à faire des communiqués de presse, à rappeler, et d'ailleurs, Sophie, tu as fait un énorme travail là-dessus, que cette réforme était vraiment anti-féministe. Est-ce que tu penses qu'il y a eu finalement un point de convergence, en tout cas, entre ce qu'on peut appeler la lutte féministe et aussi cette lutte sociale ?
Oui, alors c'est vraiment une vaste question. Les questions du rapport entre mouvement féministe et mouvement ouvrier, mouvement social en général. En fait, j'ai l'impression que quand on l'évoque, il faut éviter un peu 2 écueils. D'un côté, un écueil de se dire, en fait, le mouvement ouvrier, dès le départ, avait tout théorisé concernant le féminisme. Et finalement, il suffit de relire les grands auteurs classiques et on voit bien que tout y est. Ce qui est un écueil qui existe encore à l'extrême gauche à l'heure actuelle, malgré tout. Et aussi l'autre écueil de se dire « Ah, mais ce mouvement ouvrier, ce mouvement social a toujours été hyper sexiste et anti-féministe. » En fait, lorsqu'on regarde l'histoire, on voit que c'est une histoire qui est très contradictoire. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Avec des éléments, c'est certain, hein, de sexisme, de différentes figures du mouvement ouvrier au 19e siècle, comme par exemple la figure de Proudhon. On en avait discuté au téléphone rapidement en préparant l'émission. antiféministe notoire qui a pesé longtemps sur le mouvement ouvrier français et internationaliste. Voilà, donc on peut donner cet exemple. On peut donner tous les exemples qu'on connaît bien de relégation des femmes dans les organisations syndicales, politiques, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais dans le même temps, d'un côté, il y a quand même eu une profusion théorique de ce mouvement ouvrier qui est quand même intéressante. Quand on pense à Engels, l'origine de la famille, de la propriété privée de l'État, toutes les bases d'une théorie de la reproduction sociale s'y trouvent. On est à la fin du 19e siècle. C'est quand même formidable. Et il y a plein d'écrits comme ça qui peuvent être inspirants. Et puis, effectivement, c'est tout l'enjeu que soulignait Sophie de ce courant féministe lutte de classe qui, en fait, existe depuis toujours dans le mouvement ouvrier, mais qui, à des moments, est invisibilisé, oublié. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut parler d'une forme de renouveau du féminisme lutte de classe qui en fait a toujours existé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce renouveau ? Je serai rapide parce que je veux pas m'enfoncer dans un tunnel, mais je pense qu'il est porté un peu par deux choses. D'un côté, le fait qu'on assiste à un renouveau féministe en général, qu'on peut appeler une quatrième vague, mais peu importe, finalement, une reprise des mobilisations féministes à l'échelle internationale depuis les années 2010, qui commence en Amérique latine contre les féminicides, avec le collectif argentin, notamment Ni Una Menos, qui se développe ensuite autour du hashtag MeToo et qui va connaître toute l'expansion qu'on connaît bien, et qui arrive avec la préparation de la grève féministe internationale pour le 8 mars. Et ça, évidemment, ça a des effets forts en termes... Je pense qu'on ne peut pas penser les évolutions dans le mouvement social concernant le féminisme indépendamment de cette quatrième vague qui instaure un climat, un rapport de force, et aussi qui fait évoluer les consciences, etc., etc. Et la particularité, par ailleurs, deuxième élément de cette nouvelle vague féministe, c'est qu'elle est en lien assez fort avec le mouvement ouvrier. Ne serait-ce que le fait de mettre en avant cette arme de la grève et de la redécliner en défendant une grève féministe qui soit en fait une grève totale, à la fois une grève du travail salarié, mais aussi et surtout une grève du travail qui est assigné aux femmes et aux minorités de genre, en particulier le travail domestique, mais pas uniquement, une grève de tout ce travail qui consiste à produire et à reproduire la force de travail. Et bien ça, évidemment, ça montre quand même qu'il y a une analyse très forte de l'oppression des femmes et des minorités de genre en lien avec la question du travail, en lien avec la question économique et du coup qui crée des passerelles immédiates avec le mouvement ouvrier.
Oui, absolument. Mais justement, et du coup, ça me fait une transition toute trouvée. Merci beaucoup pour poser la question à Rachel. Toi, Rachel, tu as mené donc ce mouvement victorieux, 22 mois de mobilisation qui... dont l'outil, un des outils principaux était la grève. Concrètement, comment ça s'est organisé au quotidien et quels étaient les rapports que vous entreteniez ? Donc, je rappelle que le métier que tu représentais à l'époque est un métier qui est très féminisé, où les femmes sont vraiment majoritaires. Quels ont été les rapports avec les syndicats ? Comment vous avez été soutenus ? Comment vous n'avez pas été soutenus ? Et comment le travail a pu être fait au quotidien dans la mobilisation ?
Merci beaucoup. Sachez qu'à l'hôtel Ibis Les Batignolles, les femmes ont une tradition de lutte. C'est-à-dire que c'est des femmes qui se syndiquent tout le temps. Voilà, parce qu'à l'hôtel Ibis, le groupe Accor qui ne s'est pas fait prend de la sous-traitance en sous-traitance. Et chaque sous-traitant qui vient a son syndicat. Par exemple, quand on était avec Elior, c'était UFO. Quand on était avec Sogepac, c'était CFDT. Et là, on était avec SCN, c'est la CGT Propriété. Voilà, mais tous ces syndicats, ils viennent de la CGT Propriété. Donc, de la propriété. Voilà. Donc, nous, à l'hôtel Ibis, à l'époque, on a l'habitude de se syndiquer. Pourquoi ? Parce que quand le syndicat, il arrive, par exemple, il nous dit, syndiquez-vous, on prend nos ribs, on donne, on prend nos cartes, pour qu'on soit protégé. Parce qu'ils nous disent, quand tu es syndiqué, tu es protégé. Quand tu es mal payé, quand tu es maltraité, quand tu ne comprends pas tes fiches de paye, parce que la majorité, quand même, ça n'a pas lié écrit. Donc, quand tu ne comprends pas, tu vas voir le syndicat et derrière, il voit le patron et il essaie d'intervenir. Mais j'ai un problème avec le syndicalisme, surtout de la propriété. Parce que quand on se syndique, c'est pour vraiment défendre ces femmes. Parce que le métier qu'on fait de la sous-traitance, c'est tellement mal payé Et c'est de 700, 600, ça dépend des contrats. Il y a d'autres qui ont 4 heures de contrat, 5 heures, 6 heures, donc ça dépend. Pour avoir un temps complet, 37 heures, c'est tout un problème. Peut-être qu'il faut faire 10 années de boulot d'abord et plaider avant d'avoir les 35 heures. Donc, c'est tout un problème. Et là, le patron, il profite. Il te fait travailler plus, c'est-à-dire il te donne 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 800, 700. Si tu as trop eu, peut-être 1000, 1100 euros. Et quand, par exemple, tu fais 50 chambres, tu vois ta fiche de paye, tu vas voir ta patron pour dire, mais quand même, j'ai bossé. À la fin du mois, j'ai 800 euros. Soit elle te dit, à la fin du mois prochain, on va te faire un rappel. Ou bien, bon, si tu te plains, tu n'es pas content, il y a le pôle emploi, tu peux partir. Voilà. Donc, nous, on a l'habitude de se syndiquer, mais on ne tombait pas vraiment sur des bons syndicats. Parce que, imaginez-vous que notre collègue a été violé par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles, et le syndicat qu'on avait, la CGT Propriété, n'a pas soutenu notre collègue. Et ça, on est maltraité, on ne mange pas, on n'a pas de prime de nourriture, les cadres sont infernales, ça n'allait pas. C'était de la pure esclavagie, ça n'allait pas. Et le boulot qui détruit, qui abîme le corps, imaginez-vous qu'il y avait 13 femmes qui étaient vraiment inaptes, malades, et que la société a dit, bon, quand vous ne pouvez plus faire les 50 chambres, je vais vous muter dans un autre hôtel. Et là, on s'est dit que, mais si on ne parle pas, si on se tait, qui va venir nous défendre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On cherchait un bon syndicat. C'est pour ça que toujours je dis, heureusement qu'il y a les bons syndicats. Et on est tombé sur la CGT HPE, qui n'a rien à voir avec la sous-traitance. C'est un syndicat de l'hôtellerie, mais qui a le droit de défendre les salariés de la sous-traitance. Et quand on est parti dans la CGT HPE, on a envoyé nos revendications. Et on a eu M. Claude Lévy, qui était à l'époque responsable de la CGT HPE, qui nous dit, mais est-ce que vous savez qu'on peut vous payer les heures supplémentaires? Parce que nos heures supplémentaires n'étaient jamais payées. Et moi, ça m'a étonné parce que franchement, je ne voulais plus entendre parler du syndicat. Pourquoi? Parce que je me dis, quand on m'a parlé de la CGT HPE, je me dis, mais c'est encore la CGT. Parce qu'avec la CGT propriétaire, on a tout vu. On a vu toutes les couleurs. Et encore la CGT, moi, je ne voulais plus vraiment entendre parler du syndicat. Mais quand M. Lévy nous a dit, est-ce que vous savez qu'on peut vous payer les heures supplémentaires en installant une pointeuse? Quand vous arrivez matin, vous pointez, vos heures supplémentaires sont comptées. Là, j'ai tiqué. Je me suis dit, ah, c'est que je suis à la bonne porte. Voilà. C'est que nous sommes à la bonne porte. Et qu'est-ce qu'on allait faire? Il nous a dit, nous, on a dit, mais M. Lévy, on a envie d'aller en grève. Parce qu'à l'hôtel Ibis Les Batignolles, c'est de la pure maltraitance. On n'en peut plus, on a envie d'aller. On est syndiqués avec la CGT Propriété, mais là, ça ne va pas. Et là, il nous a dit, syndiquez-vous. Si vous vous syndiquez, syndiquez, on va vous aider. Et je vous jure, en une semaine, comme nous, là-bas, on aime tellement se syndiquer, toutes les femmes envoyaient leur rue pour pouvoir se syndiquer. C'est important de se syndiquer. C'est très important. Parce que la majorité des femmes, surtout dans le métier pénible, ne sont pas syndiquées. Et ça, ce n'est pas bon. C'est très important parce qu'il ne faut pas négliger aussi le syndicat dans ce problème de comment on appelle, du métier du travail. C'est important. Mais il faut chercher le bon. Et le bon, il y en a. Quand tu cherches, tu trouves. Il y en a. Et nous, on est tombé, on a frappé à la bonne porte. Et c'est comme ça, on a mis la pression. Mais M. Lévy, on veut aller en grève. Il dit, oh, attendez. Voilà. Mais nous, on voulait vraiment aller plus sortir parce qu'il y avait 13 femmes qui étaient menacées de mutation, tout ça. Et là, bon, il nous a trouvé une date. On a trouvé une date ensemble qui était le 19 juillet 2019. Et c'est comme ça qu'on a été en grève. Pendant longtemps. Ça n'a pas été facile. La grève n'est pas facile. Hein. Si vous commencez la grève, attachez votre ceinture, ça n'a pas été facile. C'est très dur. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire, heureusement qu'on avait un syndicat qui était tellement organisé qu'il y avait la caisse de grève qui était organisée, qui met passé sans argent, on ne peut pas tenir. Et c'est, voilà. Et c'est fait exprès. Parce que quand tu travailles, tu te mets en grève, tu n'es pas payé. Donc imaginez-vous 22 mois, comment on faisait pour tenir? Mais c'est le syndicat qui était très bien organisé. Et ce syndicat, quand même, a soutenu des 13 hôtels où ils ont été même internalisés. Donc c'est un bon syndicat. 13 hôtels qui ont été internalisés. Et nous, lors de notre grève, imaginez-vous que ce syndicat était menacé par les autres syndicats.
et la CGT Propreté qui venait sur le piquet des grèves pour casser notre grève et qui appelait même le mari de certaines femmes chez eux à la maison pour ne pas venir sur le piquet des grèves. On a vu de tout. C'est pour ça que moi, je dénonce le syndicat de la CGT, des syndicats de tout ce qui est société de la sous-traitance. Parce qu'ils ne sont, ils sont pas honnêtes. Et c'est pour ça que ça continue cette souffrance, cette maltraitance. Donc c'est un problème vraiment. Moi, je dénonce, même pendant notre grève, comme invité sur les plateaux télé, je disais, la CGT Propreté, c'est un syndicat très corrompu qu'on doit combattre et arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces femmes qui travaillent, qui ont 800 euros, ne sont pas des tomates en vente sur le marché. Parce que le secrétaire, je pense que le secrétaire de la CGT Propreté prenait même des sous, des chèques que la société donnait. Parce qu'il venait dire à la société, ne vous inquiétez pas, c'est mon hôtel, à l'hôtel Ibis, je maîtrise, il n'aura pas de grève. Mais on l'a surpris. C'est-à-dire, même dans son sommeil, il va se souvenir de nous parce qu'on l'a surpris. On l'a tellement surpris et quand nous sommes partis, ils sont venus quand même parce qu'on était partis à 35 femmes de chambre. Et après, ils sont venus là pour casser la grève. Ils ont pu prendre quand même 10 femmes. Voilà, ils ont pu prendre quand même 10 femmes. On est resté 24. Après, ils ont pris encore 4. Donc, on a fini la grève à 20. Voilà.
Donc, et vous avez réussi. Et ça, c'est quand même très important, malgré toutes les difficultés effectivement que tu pointes, le manque de soutien. Donc, du coup, c'est la CGT-HPE qui est arrivée à vous soutenir dans cette mobilisation. Et tu disais que dans les métiers très féminisés, notamment du soin ou aussi les métiers du nettoyage, etc., les femmes se syndiquent peu, alors qu'il faut qu'elles se syndiquent. Mais parce qu'il y a un manque d'informations, peut-être aussi.
Je pense que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en ce syndicat-là. Beaucoup qui sont vraiment déçus. Parce que souvent, j'attends, quand je leur dis « Ah non, 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 nous, on paye, on nous prend de l'argent, puis derrière, ils font rien. » Voilà, il y a beaucoup qui sont vraiment déçus. Il faut comprendre, c'est comme en politique. Hein. Il y a d'autres personnes qui disent « Non, moi, je ne crois pas à la politique. Vous êtes tous les politiciens, c'est des menteurs. » Voilà. Et non, je ne peux pas voter parce que non, non, si je vote, vous êtes tous les mêmes. Et le syndicat, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus se syndiquer. Donc, c'est pas, c'est aussi, on en parle, mais les gens voient ce qui se passe sur les lieux de travail. Au moment où ils ont besoin, qu'on les aide, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Et au contraire, il y a des syndicats qui font qu'on te licencie. Il y a des syndicats qui font qu'on te licencie. Et ça, c'est un problème aussi dans ce travail-là. Voilà. Donc, moi, je pense que, tout le temps, je dis aux gens, il faut chercher le bon. Il y en a. Il y a du bon syndicat, il faut le chercher. Et quand tu cherches, tu trouves.
C'est une bonne conclusion, effectivement. Mais ça me permet du coup de demander à Sophie. L'enjeu aussi, bien sûr, d'un syndicat, c'est d'aller chercher des personnes à syndiquer, pour, comme le disait Rachel Kéké, pour leur permettre de faire valoir leurs droits face à des patrons qui ont un peu tous les pouvoirs. Comment, vous, au sein de la CGT, quelle est votre stratégie pour aller chercher notamment ces femmes dans ces métiers très féminisés et très précaires et leur donner la confiance, parce que c'est un peu ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les syndicats. Est-ce que déjà cette perte de confiance a changé? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un autre regard sur les syndicats depuis la mobilisation sur la réforme de retraite, une petite hype qui revient, qui était un peu inattendue, mais qui est certainement une bonne chose. Comment on fait pour redonner confiance dans une institution qui, aujourd'hui, fait un peu l'objet d'une certaine défiance?
D'abord, il faut se dire que les syndicats, ce n'est pas une institution. Les syndicats, c'est nous. C'est une organisation qu'on décide ensemble. Et, parce que dans ce que dit Rachel, il y a deux points clés. D'abord, la première chose, c'est que le principe de la CGT, c'est que celles et ceux qui dirigent, c'est les syndiqués et qu'on ne doit pas être sur le délégataire. Et donc, d'un point de vue féministe, le point important, c'est de dire que l'action syndicale, ça ne doit certainement pas être du paternalisme où on se syndique pour être dirigé par un homme qui va dire à la place des salariés concernés, et en l'occurrence des femmes, comment elles doivent s'organiser, comment elles doivent lutter. Donc, pour nous, le principe de base, c'est que c'est les syndiqués qui décident leurs besoins, leurs revendications, leur mode d'action et qui décident si elles ont envie de se mettre en grève, de se mettre en grève et de l'issue de la suite du mouvement. Deuxième principe important, c'est que on sait que le monde du travail n'est pas mixte. les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois. Ça compte d'ailleurs beaucoup dans le fait que les femmes sont payées 25% de moins. Les femmes, elles sont concentrées dans des métiers moins bien payés, plus précaires, à temps partiel, etc., et qui sont moins organisées syndicalement. Et donc ça, pour y répondre, il faut avoir une stratégie volontariste. Ça ne viendra pas tout seul, naturellement. Il faut cibler ces secteurs-là pour mettre des moyens syndicaux et pouvoir organiser des syndicats, par exemple, de travailleuses du secteur de la propreté, des syndicats d'aide à domicile, ou de salariés du particulier employeur qui sont hyper précaires, à temps partiel, très mal payés, mais complètement individualisés et isolés, et qu'il faut qu'on regroupe. Donc on a une stratégie volontariste sur les aides à domicile, les assistantes maternelles, par exemple. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça s'organise avec des stratégies conscientes. Le troisième point important, c'est que il y a un besoin de formation de nos militants syndicaux sur la question, les questions d'égalité professionnelle d'une façon générale et les questions de violence sexiste et sexuelle, pour cesser de les minimiser et comprendre que ces questions-là, elles sont centrales dans les batailles de dignité au travail. Il y a 30% des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Nous, quand on a repris le travail sur cette question-là à la CGT, donc en 2014, ce qu'on a commencé par faire, c'est dire non, ça n'est pas une question sociétale, c'est pas une question de valeur extérieure à l'entreprise, c'est une question syndicale dans le quotidien de notre action, qui a trait à la dignité au travail et qui d'ailleurs s'inscrit dans les rapports d'exploitation. C'est pas pour rien qu'il y a des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est pas n'importe qui est agresseur sexuel, c'est en général, comme dans la société d'ailleurs, des personnes qui sont en situation de pouvoir. MeToo, c'est important de rappeler que ça a été lancé par un témoignage où il y avait le lien de subordination qui s'ajoutait au rapport de domination, puisque les actrices qui dénonçaient Weinstein, elles dénonçaient leurs producteurs. Et donc, il y a une particularité des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est qu'il y a en plus ce lien de subordination qui s'ajoute au rapport de domination, et donc c'est encore plus dur. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on ait une stratégie volontariste là-dessus, avec des revendications très fortes, et c'est pour ça qu'on a besoin du travail commun mouvement féministe et organisation syndicale, parce que là, dans le mouvement féministe est montée très fort la question des violences conjugales, mais on parle beaucoup trop peu des violences au travail. Et d'ailleurs, le gouvernement et le patronat en sont très satisfaits. Et quand il y a eu le Grenelle des violences conjugales, bon, qui a pas non plus répondu sur la question des violences conjugales, mais en attendant, il y a eu un refus total du gouvernement et du patronat d'intégrer la question des violences au travail et même de traiter l'impact des violences conjugales sur le travail. Parce que nous, on a une de nos revendications qui est de dire une femme victime de violences conjugales, son contrat de travail doit être sécurisé, l'employeur ne doit pas avoir le droit de la licencier pour arrêter que ça soit double peine, ou quand je suis victime de violences conjugales, en plus je me fais licencier, soit parce que je peux pas venir travailler parce que c'est dangereux, puisque mon conjoint, l'endroit où il sait qu'il va me retrouver, c'est mon travail, soit parce que je peux pas venir travailler parce que j'ai plein d'autres choses à faire et un état de santé qui le permet pas. Et dire au contraire, quand on lutte contre les violences conjugales, qu'on prétend le faire, la première chose qu'il faut faire, c'est sécuriser le travail des victimes. Pourquoi ? Parce que le travail, pour les femmes, c'est la question de l'indépendance économique. Et donc, la question de l'indépendance économique, si on ne l'a pas, on sait qu'on peut parler longtemps de l'émancipation des femmes. Si on n'a pas un salaire pour vivre, on ne peut pas faire nos choix de vie par rapport à nos pères, nos frères, nos conjoints, et on ne peut pas fuir un conjoint violent. Et donc, une femme en situation de violence conjugale, on va juste lui proposer de l'aide sociale d'urgence, un logement social pendant un mois, puis après ça sera retour à la rue. Donc ce qu'il faut, c'est lui garantir son boulot. Et c'est pour ça que l'action syndicale pour les femmes et pour le mouvement féministe, c'est central, parce que c'est la question de l'indépendance économique. Et on ne gagnera pas l'émancipation des femmes si on ne travaille pas sur les questions d'égalité au travail, parce que c'est ça qui permet de garantir l'indépendance économique. Et donc c'est aussi à partir de cette question-là qu'on interpelle le patronat face à ses responsabilité, qui fait comme si, souvent on les entend quand ils en parlent, hein, mais quand on leur demande, notamment par exemple quelqu'un comme Laurence Parisot, elle va dire « Ah non, mais moi je suis tout à fait favorable, l'école il faut revoir, les médias il faut revoir, etc. etc. » Donc tout ce qui ne la concerne pas. Mais par contre, le patronat n'a aucune responsabilité et ne peut rien faire parce qu'il serait en bout de course. Il pourrait pas faire plus de mixité des métiers parce que la ségrégation, elle se fait à l'école, etc. etc. C'est complètement faux. Dans la structuration des inégalités entre entre les femmes et les hommes. Le travail, c'est à la fois la cause et la conséquence. On dit les inégalités font système. Évidemment, le patron n'est pas responsable des violences conjugales. Mais par contre, le fait que le travail des femmes soit dévalorisé et sous-payé, ça joue un rôle évidemment très important dans la difficulté des femmes à échapper au phénomène d'emprise. Pareil sur l'inégale répartition des tâches domestiques. Le patronat n'en est pas de première intention responsable. Par contre, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui prennent les congés parentaux ? Bah, y a aussi des calculs économiques dans le couple. Et le fait que les femmes sont beaucoup moins bien payées, bah, c'est elles qui... pour qui l'impact est le moins quand on s'arrête, et puis qui, de toute manière, ne peuvent pas payer de garde d'enfants pour travailler, et dont le travail apparaît comme secondaire. Donc, c'est très important, quand on est féministe, de s'intéresser au travail et de faire le lien avec la situation des femmes d'une façon générale. Et puis, le dernier point important que je voulais soulever, c'est que dans notre stratégie syndicale, il y a une question très importante pour transformer des luttes de femmes, il y en a plein des luttes de femmes, mais les transformer en luttes féministes. C'est pas parce que c'est une lutte de femmes que ça va être automatiquement une lutte féministe. Par exemple, des mobilisations dans la santé, il y en a plein. Mais on rappelle même pas que les travailleurs de la santé sont des travailleuses de la santé, et on ne fait pas le lien entre leurs revendications et le fait que ce sont des femmes. L'élément, il est central. Pourquoi est-ce que dans la santé, les salaires sont si faibles, ou dans l'éducation, je pourrais parler de la même chose, parce que ce sont des métiers de femmes, sous-payés parce qu'exercés par des femmes, parce qu'on considère que soigner, éduquer, assister, c'est naturel quand on est une femme et qu'il n'y a pas de qualification à payer. Pourquoi est-ce que, par exemple, la lutte des travailleuses de Verbaudet, des ouvrières de Verbaudet, elle a duré si longtemps, elle a été si violente, 2 mois de grève, et je pourrais dire la même chose sur les camarades de l'Ibis Hôtel, aussi parce que ce sont des femmes, parce que le patronat se permet des choses sur les femmes travailleurs ou des femmes travailleuses, pardon, où ils cumulent le mépris de classe avec le sexisme. Et donc, on a des luttes de femmes qui sont beaucoup plus violentes et compliquées parce que se cumulent les rapports de classe avec les rapports de genre. Et donc, dans la mobilisation des ouvrières de Verbaudet, on a eu une stratégie volontariste pour faire de cette lutte une lutte féministe. Et donc, faire le lien, parler du sexisme qu'elles subissaient au travail, dénoncer le fait qu'elles étaient mal payées parce que femmes. Et ça, en fait, ça nous a permis 2 choses. La première chose, c'est que ça a permis de faire de cette lutte des ouvrières de Verbaudet une lutte qui nous concerne toutes et tous, et notamment toutes les femmes, toutes les féministes. Et ça a été la même stratégie que vous avez eue sur Ibis. Et donc, de faire une solidarité et un soutien extrêmement large avec un phénomène d'identification. Et puis la deuxième chose, c'est que ça joue un rôle d'émancipation très importante pour les travailleuses qui sont mobilisées. De toute manière, la grève, c'est une dynamique d'émancipation. Quand on est en grève, on relève la tête face au patron, on s'affirme, on s'organise collectivement, et on ne sort pas d'une grève comme on est rentré. Derrière, il y a des choses qui changent profondément. Mais quand on est en grève et qu'on est une femme, ça change aussi des choses dans sa vie personnelle, dans sa vie de famille, face à son mari, etc., ou son conjoint. On s'affirme. Et d'ailleurs, souvent, quand on sort de lutte, bah, y a aussi des divorces quand les rapports de pouvoir ne changent pas à la maison. Malheureusement, parce que faut le rappeler, à la maison, c'est des rapports de pouvoir. Hein, les changer, c'est compliqué. Et donc, le définir comme lutte féministe, ça permet aussi une conscientisation des travailleuses mobilisées. Ça permet aussi d'aider à ce que les militants, parce que, par exemple, la lutte de Verbaudet, c'était, donc les grévistes étaient à 80-90% des femmes, mais la CGT, c'est une organisation mixte. Et donc, il y a plein d'hommes qui étaient mobilisés pour soutenir ces grévistes. Et il y a eu aussi une conscientisation des militants sur cette question-là, qui ont pris conscience des rapports de domination qui s'exerçaient beaucoup sur les femmes, et qui ont aussi pris conscience du fait qu'il fallait qu'ils laissent les femmes jouer leur rôle de premier plan, et qu'ils acceptent évidemment que ça soit les ouvrières concernées qui mènent leur lutte, et ça c'est le principe de base dans la CGT, mais aussi que ça soit les femmes qui s'affirment, organisent leur mobilisation et l'organisent à tous les niveaux. Donc ça c'est important dans notre stratégie, on transforme des luttes de femmes en luttes féministes, et il faut qu'on le travaille ensemble.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est ce que Sophia Tronny dit. Moi, je suis d'accord que les femmes qui sont victimes de violences, on les protège pour qu'elles gardent leur travail, tout ça. Mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas victimes de violences, mais qui sont victimes de ces syndicats-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ça continue. Ce syndicat-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les laisser continuer? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Parce qu'il y a un problème qui est là. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Par exemple, je vais donner un exemple du salarié Moussa Sylla qui est mort, qui travaille à l'Assemblée nationale, qui est mort, qui nettoyait le parking, qui est tombé et qui est mort. Moussa Sylla, quand nous sommes partis, mais le syndicat de la société, c'est-à-dire de la sous-traitance, est venu nous trouver devant l'Assemblée nationale parce qu'on manifestait pour la mort de Moussa Sylla, pour nous dire non. Ça, là, ce n'est pas de la politique. Ne vous accaparez pas de la mort de Moussa Sylla pour faire de la politique. Mais en Assemblée nationale, on parle de quoi? Moi, souvent, quand j'interviens, on me dit que moi, je viens là, je parle tout. Je suis comme je suis dans la grève. Pourtant, je suis député de la nation. Mais la lutte, c'est en moi. Et quand je parle, les gens me regardent. Et il faut que je dise aux gens, comme j'avais dit, vous ne voulez pas augmenter le SMIC, vous ne voulez pas augmenter les salaires. Pourtant, vous forcez les gens à aller en grève. Maintenant, quand tu vas en grève, tu gagnes. Quand tu vas en grève, ton salaire augmente. Bon, on dit les grands patrons, ils n'ont pas d'argent. Mais quand nous sommes à l'époque de l'hôtel Ibis les Bâtons, quand nous sommes allés en grève, on a quand même eu 250 à 500 euros d'augmentation de salaire. Mais d'où sort cet argent? Donc, il y a l'argent. Donc, le gouvernement force les gens à aller en grève pour pouvoir avoir une augmentation de salaire. D'où j'ai dit aux gens, mais il faut aller en grève pour pouvoir avoir votre augmentation de salaire. Ça ne sert à rien de parler, de vous asseoir. L'argent ne va pas augmenter si on ne va pas en grève. Voilà, donc, quand tu vois les syndicats, aujourd'hui, si l'histoire de Moussa Sylla n'a pas abouti, mais c'est ces syndicats qui ont fermé carrément pour ne pas que ça aille quelque part. Donc, il y a un vrai problème qui est là. Parce que le problème de la sous-traitance, il y a des syndicats qui sont là, qui manipulent les salariés, qui sont mal payés et qui sont maltraités. Ces femmes, elles sont maltraitées par ces syndicats-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, ça continue?
Effectivement, c'est une question. C'est vrai que qu'est-ce que peut faire, par exemple, le syndicat à un niveau national pour éviter ce type d'abus, de maltraitance dont Rachel Keke est en train de faire état?
En fait, le principe, la complexité, c'est que le patron a beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Et donc, il a aussi un pouvoir de pression globale sur les salariés et de pression aussi sur les syndicats. Et donc, il y a besoin, c'est ce qu'on organise dans la CGT, que les syndicats, les délégués syndicaux, ils soient formés, suivis, pas livrés à eux-mêmes. Et donc, la CGT, on démandate quand il y a des délégués syndicaux qui ne jouent pas leur rôle et qui ne respectent pas les valeurs de la CGT. Le principe, nous, c'est ça. Et c'est important d'avoir un contrôle sur les représentants du personnel. C'est pour ça qu'il y a des élections et que c'est les salariés qui décident avec des élections et que de l'autre côté, les organisations syndicales, elles font un travail de mandatement et de formation, bien sûr, des délégués syndicaux pour les former, pour qu'ils puissent faire face à l'employeur. Parce que c'est bien d'en parler de façon théorique, mais c'est super dur d'être dans le rapport de force permanent face à l'employeur. Des discriminations, il y en a énormément, avec les patrons qui ont beaucoup de pouvoir sur les salariés et les syndicalistes. Et donc, la discrimination, on la vit quotidiennement. C'est d'ailleurs le premier motif de non-syndicalisation. Et c'est pour ça qu'on exige des mesures plus volontaristes, parce que c'est comme sur l'égalité femmes-hommes. C'est obligatoire dans le code du travail, mais dans les faits, c'est pas du tout respecté. Et il n'y a pas de sanction pour les employeurs qui discriminent. Et donc, à partir de là, les patrons peuvent se permettre beaucoup de choses. Et c'est bien le problème.
Et aussi de faire de la pression, effectivement, sur les salariés, sur les syndicats, qui représentent par ailleurs les salariés. Y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de notre conversation, et tu l'as un peu amené aussi en introduction, Aurore, c'est la question de la grève. Outil privilégié de la lutte sociale. On voit que la grève peut s'organiser d'ailleurs même en dehors des syndicats. On parlait tout à l'heure de la grève féministe qui a émergé notamment d'Amérique latine, qui a été reprise dans plusieurs pays, notamment en France. On constate aussi que c'est un outil de mobilisation qui et va au-delà du travail salarié. On voit que les femmes, les féministes, s'en saisissent pour dénoncer les inégalités sur tout le travail reproductif qui est réalisé au quotidien par les femmes dans la majeure partie des cas. Est-ce qu'on peut dire que finalement la grève, depuis qu'elle est réappropriée en quelque sorte par les féministes, peut avoir une nouvelle signification et peut avoir cet effet d'agrégateur des différentes revendications, alors que initialement c'était essentiellement un outil de lutte sociale et un outil de la lutte ouvrière.
L'idée, je pense, avec le développement de la grève féministe, c'était aussi de remettre au goût du jour un outil un peu oublié par, en tout cas, une partie du mouvement féministe qui est cet outil de la grève et qui permet de faire directement le lien avec le mouvement ouvrier. Donc moi, je fais partie d'une structure qui s'appelle la Coordination Féministe Nationale qui existe depuis plusieurs années, qui a sa déclinaison ici à Paris dans l'AG Féministe Paris Banlieue et qui justement essaye de porter en France la nécessité de construire la grève féministe pour le 8 mars avec un peu ce double challenge autour de cette notion de grève féministe qui est d'un côté de convaincre le mouvement féministe autonome qui depuis au moins les années 70 s'est en partie autonomisé du mouvement ouvrier parce qu'en fait, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que quand on parle des enjeux des luttes féministes, il y a un peu deux gros blocs. Il y a tout ce qui est lié en fait au travail, aux enjeux de classe, et c'est là où vont intervenir les syndicats dans une dimension féministe. Mais il y a aussi tout ce qui est en fait de façon autonome de la question de la classe, l'oppression de genre qui va recouper les enjeux typiquement de contraception, d'avortement, de sexualité, de VSS dans le cadre de la famille. Mais bien sûr, ça c'est, je fais un lien un peu brutal, mais il y a toujours des liens, et on le voit bien avec les VSS au travail, on voit qu'il y a des liens qui se font. Mais du coup, ce double aspect de la lutte féministe, ça fait qu'il y a une double prise en charge, avec d'un côté un mouvement féministe autonome qui traditionnellement a plus porté sur les questions de genre, et de l'autre côté, c'est vrai, le mouvement ouvrier, qui avec les syndicats notamment, va faire le lien entre être femme et travailleuse, et quelles sont les revendications qu'on va développer à ce croisement-là. Et du coup, nous, avec cette idée de la grève féministe pour le 8 mars, le challenge c'est à la fois de convaincre le mouvement féministe en général que ça a du sens de mettre au goût du jour la grève féministe, qu'en fait la base matérielle de l'oppression des femmes et des minorités de genre c'est leur assignation au travail reproductif et que du coup elles et ils ont cette arme de la grève féministe qui permet de mettre en fait un rapport de force très très fort parce que on l'a vu au moment du Covid, quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête, parce que, et franchement, voilà, on touche au seul travail qui est inconfinable, donc qui est essentiel et qui pourtant est méprisé, dévalorisé, sous-payé, alors qu'il est au centre de notre reproduction quotidienne et intergénérationnelle. Donc il y a cet enjeu-là. Et puis il y a l'autre enjeu qui est de convaincre les syndicats aussi. Alors évidemment, dans tous les syndicats, il y a des féministes qui sont des figures importantes et il y a des liens évidemment entre mouvement féministe et mouvement syndical via ces féministes notamment, mais que ça avait du sens en fait de défendre cette grève féministe là. Et du coup, je pense que pour ouvrir aussi un peu la discussion, ça aurait un intérêt de faire un peu le bilan du 8 mars et de la grève féministe de cette année. Je pense que les bilans, tout le monde ne fera pas les mêmes bilans, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, sans m'engager pour l'ensemble de la coordination, c'est vrai que j'ai trouvé que ce 8 mars était en partie décevant. Alors pourquoi ? Sans vouloir mettre du négatif, etc., mais parce que c'est important pour la discussion. Parce que moi, ma première réaction, quand j'ai vu que le 8 mars de cette année s'inscrivait dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, une mobilisation d'une ampleur incroyable, comme on en avait peu vu depuis au moins 2010, voire 95, et que, en fait, le 7 mars était une journée de mobilisation dans ce cadre-là appelée par l'intersyndicale, avec le 8 mars qui était juste le lendemain, et le fait que l'intersyndicale, y compris, appelait en partie au 8 mars. Eh bien, on pouvait se dire... incroyable. C'est une chance à la fois pour les féministes et à la fois pour le mouvement social. Chance pour les féministes parce que ce 8 mars allait tout déchirer. Et chance pour le mouvement social parce que le 7 et le 8 sont des journées qui se suivent et que du coup, ça pouvait être le départ d'une grève générale reconductible qui aurait, à mon avis, donné fait passer un cap, en tout cas, au mouvement. Et c'est vrai que, malheureusement, même si les chiffres pour le 8 mars ont été vraiment excellents et qu'il y a eu une mobilisation incroyable qui est indéniable, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le 7 mars, on était quand même plusieurs millions dans la rue, alors que le 8 mars, on tombe à plusieurs centaines de milliers, ce qui est tout à fait honorable, mais ce qui n'est pas à la hauteur. Et on sait, l'histoire l'a montré malheureusement, qu'on n'est pas parti en grève reconductible à ce moment-là. Et du coup, je pense que pour discuter, il y a des enjeux, enfin, il y a des questionnements à se poser. Il y a des questionnements à se poser d'un point de vue politique qui n'est pas que féministe, mais en même temps, c'est dur de totalement séparer les choses, qui est, est-ce que l'intersyndicale aurait pu plus clairement appeler à la grève féministe pour le 8 mars, puisque l'appel officiel de l'intersyndicale, pas de l'intersyndicale féministe, c'était de se saisir du 8 mars, pas de faire la grève, et voilà, ce qui n'est pas exactement la même chose, même si c'est, enfin voilà, c'était quand même très très bien qu'il y ait mention du 8 mars. Donc il y a cette question de la reconductible, de se saisir de la grève féministe jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi la question, je pense, de encore un travail de conviction, de fond à faire. Alors là, on dépasse la question uniquement des syndicats, mais y compris dans le mouvement social, de la centralité des enjeux féministes. Et je pense, malgré tout, que ça montre qu'il y a encore un travail à faire de conviction profond sur l'enjeu féministe. Voilà.
C'est un peu ce dont tu parlais, d'ailleurs, Sophie, tout à l'heure, sur comment vous faites en sorte d'apporter un regard, en fait, féministe sur l'action syndicale et sur... tu parlais de lunettes, c'est tout à fait ça, avoir ces lunettes féministes pour comprendre les enjeux de rapport, de domination, etc. J'imagine que tu te retrouves un peu dans le discours d'Aurore.
Je partage tout à fait. En fait, c'est vraiment la stratégie qu'on a eue, la CGT, et en particulier les féministes de la CGT, de se dire le 8, c'est le lendemain du 7. Du coup, on a une possibilité historique dans ce mouvement social, sachant que la CGT avait beaucoup insisté sur la dimension sexiste de la réforme des retraites, etc. Donc pour nous, c'était vraiment l'objectif. Après, à un moment, on a eu aussi l'objectif que la journée de mobilisation, ça soit pas le 7 et le 8. Enfin, c'est aussi une stratégie qu'à un moment, on avait essayé. Mais bon, le 7 étant décidé, on s'est dit, on va jouer sur le 8, c'est le lendemain, et hop, on reconduit la grève le lendemain, sachant que, pour nous, notre but, d'une façon générale, après le 7 mars, c'était d'étendre la grève et de faire basculer un maximum de secteurs en grève reconductible, et que notre deuxième objectif, c'est le 8 mars, de faire du 8 mars une grève, une journée de grève féministe. Et donc on a, avec d'autres, avec la FSU et Solidaire et avec les associations féministes, ça fait au moins 6 ans ou 7 ans qu'on a lancé ce mot d'ordre-là, donc avec le 8 mars 15h40 et autres, pour faire du 8 mars, sortir de le 8 mars, c'est la journée de la femme, mais en faire une journée de lutte, et une journée de lutte avec la grève comme outil d'action. Oui, c'était notre stratégie sur ce 8 mars de cette année. Et sur pourquoi est-ce que ça n'a pas eu une ampleur plus importante, je partage ce qui a été dit. Premier critère d'explication, parce que le 8 mars de cette année, comme le 8 mars des années précédentes, en fait, il y a seulement la CGT, la FSU et Solidaire qui appelaient à la grève féministe, et donc pas le reste de l'intersyndicale qu'on a essayé de convaincre et qu'on n'a pas réussi à convaincre d'appeler à la grève féministe le 8 mars. Donc forcément, ça fait une déperdition sur une partie du monde du travail quand même. Et puis ensuite, un déficit d'appropriation encore du 8 mars et des enjeux féministes, avec d'un côté des secteurs féminisés qui ne font pas le lien entre leurs revendications professionnelles et le fait qu'elles sont femmes et que c'est un enjeu pour revaloriser les enjeux féministes. Donc par exemple, nous, la stratégie qu'on a depuis plusieurs années sur le 8 mars, c'est de faire converger des journées professionnelles sur le 8 mars. C'est-à-dire que le 8 mars, s'assoit, y ait, par exemple, tous les syndicats de l'éducation nationale qui appellent à se mobiliser le 8 mars en disant il faut que les enseignants soient mieux payés pour gagner des augmentations de salaire pour toutes les enseignantes et tous les enseignants. Parce que si les enseignants sont si mal payés, c'est parce que c'est un métier à prédominance féminine. Pareil, faire en sorte que le 8 mars, ça soit une journée professionnelle de la santé, des assistantes maternelles, des travailleuses de la propreté, etc. Et donc ça, on réussit à le gagner au forceps dans certains secteurs, mais ça vient d'en haut, ça vient pas d'en bas, c'est pas approprié. On avait réussi il y a un ou deux ans à faire en sorte que les sages-femmes, par exemple, se mobilisent le 8 mars pour leurs revendications professionnelles, en faisant le lien avec le fait que c'était le 8 mars. On avait aussi réussi sur les assistantes maternelles, mais à chaque fois, on leur a soufflé fortement à l'oreille, c'est pas venu naturellement, enfin, il y a un déficit d'appropriation. Et puis le deuxième point, c'est dans les secteurs plus mixtes ou les secteurs à prédominance masculine, bah du coup, ils se sentent pas du tout concernés et ils n'impulsent pas ou peu la mobilisation. Mais quelque part, il faut d'abord que ça soit impulsé par les femmes. Enfin, voilà, c'est un problème, mais pour moi, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est que dans les secteurs féminisés, le 8 mars, c'est pas un rendez-vous, c'est pas vécu comme un rendez-vous professionnel incontournable sur lequel il faut faire converger les mobilisations professionnelles pour dénoncer le fait que globalement le travail du soin et du lien n'est pas reconnu, n'est pas rémunéré à la hauteur, que les temps partiels enferment les femmes dans la précarité, etc. Donc je pense que c'est ces deux facteurs-là. Après, à mon avis, il faudrait un peu approfondir l'analyse sur pourquoi est-ce qu'en Espagne, en Suisse, en Amérique latine, en Islande, ça marche et en France, on n'y arrive pas. Il y a aussi des dynamiques qui sont propres à celles du mouvement féministe et des organisations syndicales, avec des choses qui ne sont pas forcément duplicables en tant que telles. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher et qu'il faut continuer à porter, gagner le fait de faire du 8 mars une grande journée de grève féministe pour dénoncer à la fois la sous-rémunération des femmes et les rapports de domination, les violences sexistes et sexuelles.
Alors, ne pas lâcher, ça, c'est quelque chose que tu connais bien, Rachel, puisque, effectivement, après ton engagement avec tes collègues de l'hôtel Ibis des Batignolles, tu as été élue députée, tu disais, de la NUPES. Donc, tu sièges désormais à l'Assemblée nationale. Comment, toi, en tant que députée aujourd'hui, tu portes ce combat? Je veux juste te citer, parce que tu as prononcé récemment, pendant la réforme des retraites, une phrase assez fabuleuse. Tu as dit « Vous ne mettrez pas à genoux celles et ceux qui tiennent la France debout ».
C'est nous.
Vous pouvez applaudir. Et donc, comment, en tant que députée, ce combat social, ce combat, cette lutte, parce que tu dis aussi la lutte paix, comment tu le portes au quotidien dans tes engagements? Et est-ce que tu as le sentiment que finalement tu es au bon endroit pour porter ces combats-là?
Mais déjà, après nous, notre grève, après notre belle victoire, quand on m'a dit d'être candidate aux législatives, que j'ai accepté, mais j'ai dit il faut que je porte cette lutte dans l'hémicycle. En l'Assemblée nationale, le juge serait élu pour être la voix des sans-voix. Parce que la voix des sans-voix, c'est ce bas peuple qui tienne la France et qu'on n'attend pas et qu'on méprise. Et je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place parce que je porte vraiment ce combat au sein de l'hémicycle. Même si souvent, on n'a pas des amendements qui sont votés pour pouvoir arranger, augmenter le salaire, la vie des Français. Que quand je faisais la campagne, que j'attendais surtout les gens qui sont en retraite pour dire « Oui, madame, vous savez, on a 800 euros, c'est difficile pour nous, pour finir la fin du mois. » Il y a beaucoup de Français, du peuple français qui souffrent beaucoup. Et je porte ça au sein de l'Assemblée nationale. Je suis à la bonne place parce que je sais que ma place à l'Assemblée nationale visibilise ce qui était caché. Parce que je l'ai dit ça, je l'ai fait, je l'ai dit, parce que ceux qui tiennent la France, que vous voulez mettre en genoux. Et puis je l'ai demandé, qui a déjà touché 800 euros ici? Qui a déjà touché 900 euros? Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte que des gens, ils pensent que les 900 euros, c'est par jour. Parce que quand je disais ça, il y a d'autres qui disaient, oui, mais 800, je dis non, ce n'est pas par jour, par mois. Ce n'est pas par jour, par mois. Il y a des gens même d'ici, ils ne peuvent pas finir avec ça. Donc, je suis à la bonne place. Et je représente le digne peuple au sein de l'Assemblée nationale et je vais continuer à leur dire, même s'ils ne veulent pas m'attendre, même s'ils disent que, oui, quand je parle avec mon accent, ils n'attendent pas, mais derrière, quand ils répondent, c'est qu'ils entendent ce que je dis. Parce que si tu n'attends pas, tu ne réponds pas. Mais quand tu réponds sur les médias, c'est que tu entends ce que je dis. Voilà, donc ça les dérange que je leur dis il faut augmenter le salaire des salariés qui travaillent, qui ont des bas salaires. Ça les dérange, mais je suis à la bonne place. Et quand je leur dis, ça rentre bien dans les oreilles. Parce qu'après, en dehors de l'hémicycle, ils viennent me dire, oui, madame la députée, c'est vrai ce que vous dites, mais moi, mon grand-père, était maçon. Moi, ma fille, elle travaille au restaurant. Ma mère était femme de ménage. Mais moi, je leur dis, mais allez voter dedans les lois pour arranger la vie de ces personnes. Ne venez pas me dire ça en dehors de l'hémicycle.
Donc, difficile de faire passer des amendements.
Parce qu'on n'a pas la majorité.
Bah, c'est ça. Que je te posais la
c'est
question.
C'est pour ça que je dis aux gens, il faut voter.
C'est ça?
Bah oui! C'est pas comme j'ai dit, quand tu ne t'intéresses pas à la politique, tu n'as pas le choix, va s'intéresser à toi. Choix. Aujourd'hui, tout a augmenté, même si tu n'aimes pas la politique, mais quand tu vas faire tes cours, ça ne t'épargne pas. Et non, j'ai compris aujourd'hui que moi, en tout cas, je ne faisais pas la politique avant. Et je suis contente que je suis dedans parce que je découvre beaucoup de choses. Parce que je vois que c'est à l'Assemblée nationale, tout se passe, c'est là-bas, on vote. Et en dehors de l'Assemblée nationale, ceux qui n'aiment pas la politique, qui aiment la politique, et qui partent voter, qui fassent leur choix. Si on avait la majorité de la NUPES, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on allait souffrir. Voilà, parce qu'on souffre, c'est dur. Avec le 49-3 qui passe, avec Macron qui passe en force, souvent tu croises les gens même dans le métro, ils n'en peuvent plus, ils te parlent, ils n'en peuvent plus, nous on ne peut plus tenir. Ah, vous savez souvent peut-être que ça peut faire la guerre entre un jour entre nous. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit aux jeunes de banlieue quand j'ai dit, vous ne votez pas, vous restez chez vous, vous ne votez pas. Pourquoi vous ne votez pas? Vous êtes des Français. Pourquoi vous ne votez pas pour pouvoir changer votre vie? Regardez aujourd'hui, ces jeunes qui sont discriminés, quand ils n'en peuvent plus, regardez ce qu'il se passe.
C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'absence de confiance aussi dans les structures syndicales, typiquement. Il y a une absence de confiance dans la politique, mais c'est valable pour un tas d'autres organisations. Mais justement, enfin, ce que tu portes, toi, c'est une voix très forte, très importante. Et est-ce qu'au quotidien, tu comprends les limites de ce que ça peut représenter que d'être finalement élu député, puisque concrètement, en portant un message fort pour les personnes qui n'ont pas de voix, comme tu le dis, c'est très important, très fort, mais le résultat, il est là. Le résultat, c'est 49-3, c'est la réforme des retraites. Je veux dire, comment on fait pour se mobiliser encore plus que ça? Est-ce qu'une députée peut se mettre en grève, par exemple?
Mais bien sûr. Bah, moi, je vais partout. Hein. Depuis, je vais sur les piquets des grèves, je vais partout. Mais moi, je suis France. Ce qui m'a fait mal, comme j'ai dit, moi, je dis les choses. Ce qui m'a fait mal, c'est que ce combat de la réforme des retraites, après le 1er mai, il y avait du monde. Et après, c'est cassé. C'est-à-dire, on a mis ça jusqu'au 6 juin. La lutte, ce n'est pas ça. La lutte, ce n'est pas comme ça. On est à deux bouts de pouvoir faire reculer Macron. Et quand on nous tape le bâton sur la tête, et ça s'arrête. Et le 6 juin, les gens n'avaient plus de force pour continuer. Au moment où les gens étaient dedans, il fallait aller, même si on ne se mettait pas en grève, mais les week-ends, même tous les samedis ou dimanches, on devait remplir, c'est-à-dire les 2 millions devaient être dans la rue pour faire reculer Macron. On peut le faire. Et moi, je dis aujourd'hui, le 8 mars, normalement, on n'a pas besoin. Si même le syndicat appelle à la marche du 8 mars, ça doit être automatique. Toutes les femmes doivent savoir que même quand elles dorment, elles se réveillent le 8 mars, je dois être dans la rue. Marie, on n'a pas besoin de dire, venez, sortez. Non, il faut sortir massivement, surtout les femmes. Parce qu'on est beaucoup victimes. Regardez la réforme des retraites. Ça nous tape dessus, ça nous écrase. La politique n'a pas pitié des femmes. Et si nous-mêmes, on ne se réveille pas, personne ne va faire ça à notre place. Et c'est ce qu'on a fait à l'hôtel Ibis. On a tenu 20 femmes. On a dit, si on ne tient pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui va venir nous donner? Aujourd'hui, à l'hôtel, il n'y a même pas 800 euros. C'est fini. Ça a disparu. De 1600 à 2000 euros de salaire. C'est la lutte qui paye. C'est pour ça que je dis la lutte qui paye. C'est la lutte qui paye. C'est pour ça hier j'ai dit à l'Assemblée nationale, allez vous mettre en grève. Allez vous mettre en grève. Parce qu'ils ne vont jamais, jamais de la vie avec Macron et le Front national qui votent ensemble. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Front national, quand il vient à la télé, les Français, c'est du charbon noir. Parce qu'au fond, ils ne votent pas des lois concrètes pour les Français. Ils ne votent pas. faut pas qu'on se dise des bêtises. Tout le monde voit, tout le monde suit l'Assemblée nationale, tout le monde sait quelle est la politique du Front national. Ils sont là pour les riches. Et nous qui ne sommes pas riches, là, on fait comment? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui ne sommes pas riches? Donc, il faut, comment je peux dire, il faut aller voter, il faut se mettre en lutte, il faut se mettre en grève. Organisez-vous dans vos secteurs de travail. Organisez-vous, parce que si vous ne vous organisez pas, l'argent ne va jamais augmenter. Tout monte, l'inflation, tout augmente et les salaires n'augmentent pas. Mais s'il faut la grève pour que ça augmente, mes frères, mes sœurs de combat, mettez-vous en grève. Mettez-vous en grève et ça va changer. On a vu avec Baudet, on a vu avec Jodis, on a vu avec Ibis. Ça va changer. Et sachez, la lutte paye. Voilà, merci.
C'est une très très bonne conclusion. Merci beaucoup Rachel. Pour revenir effectivement sur le fait que la lutte paye, il y a aussi un aspect important. Tu parlais de l'épuisement. Les gens étaient épuisés effectivement hein, après le 6 juin. Plus personne. Les gens avaient perdu l'énergie qu'on avait en janvier, en février. Progressivement, on s'est rendu compte qu'effectivement. Ça servait à rien, en quelque sorte. Il y en a beaucoup qui se sont dit, de toute façon, là, c'est cuit. Mais ce qu'on peut remarquer, et je pense que tu en as fait l'expérience, Aurore aussi et Sophie aussi, c'est que la lutte énergise. La lutte redonne de l'énergie. Sophie, toi, par exemple, Aurore, pardon, par rapport à la coordination féministe et aux grèves, etc., que vous voulez organiser, on se rend compte qu'en fait, la joie militante est importante et fondamentale. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se structure, qu'on s'organise, qu'on se rencontre et qu'on soit toutes et tous ensemble pour faire bouger les choses. Tu confirmes ?
Tout à fait. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière de ce que tu disais, je pense que... Mais bon, on va ouvrir la parole au public, j'imagine, bientôt. Mais juste très, très rapidement, je pense que le problème, ça n'a pas été le manque de détermination ou qu'à un moment, on a été épuisé. Je pense que la force, elle est là. On voit qu'en fait, ça craque de partout. On voit que depuis 2016, en fait, c'est des mobilisations quasiment chaque année, à l'exception de pendant le Covid, mais qui était quand même un événement un peu particulier. On voit encore aujourd'hui, rien que cette année, en fait, comment on clôture l'année à l'heure actuelle avec une révolte incroyable des quartiers populaires. Mais imaginons à un moment que, au même moment, le mouvement féministe descende dans la grève, au même moment, le mouvement syndicaliste avec l'intersyndicale partent, les gilets jaunes, les quartiers populaires. Il y a un enjeu central à défendre la convergence des luttes, et je pense que c'était le but de cette discussion-là. Et il y a un enjeu central, il me semble aussi, à parler de stratégie. La force et la détermination sont là. La question, c'est la stratégie pour le mouvement. Ça passe par la convergence, ça passe par l'auto-organisation à la base des personnes qui luttent. Le syndicat est un cadre d'auto-organisation, on l'a bien dit. Et ça passe aussi par une stratégie qui, à un moment, passe en un nouveau cap. Et il me semble que ce qu'on a raté en mars, c'est de passer de journée de mobilisation saute-mouton à une reconductible. Et c'est ça qui a fait qu'on a perdu à la fin. Mais du coup, c'était pas notre détermination. C'est vraiment un enjeu stratégique. Et je pense qu'on doit tirer ce bilan-là pour qu'à la prochaine mobilisation, cette fois-ci, on converge tous et toutes ensemble et avec une stratégie, on est bien d'accord qu'à un moment, on ne rentre pas chez nous, on continue. Voilà.
C'est vrai que, et d'ailleurs, on l'a vu... On a vu que les syndicats avaient un rôle important à jouer dans la définition de cette stratégie. On l'a vu avec la mobilisation sur la réforme des retraites. Je suis navrée, j'aimerais qu'on puisse prolonger cette discussion jusqu'à très tard, mais nous allons devoir y mettre fin. Donc je voulais vous proposer à chacune de prendre la parole une dernière fois pour partager un petit mot de la fin.
Si tu veux bien. Pour moi, c'est tout simple. C'est vraiment que on ne gagnera pas l'émancipation des travailleuses si les travailleuses ne s'organisent pas elles-mêmes et si elles se syndiquent pas. Et donc, il faut se syndiquer, s'organiser. Parce que là, sur cette réforme des retraites, pourquoi est-ce que la grève s'est pas généralisée après le 7 mars? Parce qu'il y a 40% des salariés du privé qui sont dans des entreprises sans syndicat. Quand dans son entreprise, il n'y a pas de syndicat, la grève, c'est théorique. C'est déjà l'affaire un jour, c'est de l'ordre de l'exploit. Mais mais ensuite la reconduire, c'est encore plus dur. Donc il y a 40% des salariés dans des entreprises sans syndicats, et ensuite beaucoup, beaucoup de salariés dans des entreprises dans lesquelles les syndicats sont trop faibles. Et quand les syndicats sont pas très forts, on peut faire grève un jour, mais de là à partir pour une reconductible sur une semaine ou deux, enfin, il faut faire le débat dans la salle sur qui a fait la grève reconductible dans la salle et pourquoi est-ce que après le 7 mars, tout le monde n'est pas parti en grève reconductible. Donc il y a les éléments économiques qui bloquent, mais il y a la question de l'organisation. Et les secteurs qui ont basculé en grève reconductible après le 7 mars, c'est les secteurs que la CGT organise et dans lesquels on avait une stratégie anticipée de basculement en grève reconductible, l'énergie, les transports, les déchets, les dockers, le pétrole, qui ont des taux de syndicalisation élevés et où on sait, nous, à l'avance, que si on anticipe, toc, on se met d'accord, on organise la grève reconductible. Mais ces secteurs, ça devient des oasis au milieu du désert. Et donc, ce qu'il faut, c'est multiplier ces oasis pour reconstruire un peu de forêt, là. Il faut replanter des organisations syndicales, et ça fait partie... Pourquoi est-ce que moi je suis très confiante pour l'avenir ? Parce que je pense qu'avec cette mobilisation, nous avons semé des graines et maintenant il faut les arroser. Et dans ces graines, il y a le fait d'avoir remis la grève, la mobilisation sociale, syndicale au centre et le fait, la nécessité de se syndiquer si on veut gagner face à son patron et face au gouvernement. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de luttes sur lesquelles on gagne des augmentations de salaire conséquentes. Évidemment, il y a la magnifique grève des ouvrières de Verbaudet que la CGT a organisée pendant 2 mois et où on sort avec une magnifique victoire. Et des victoires comme ça, il y en a plein d'autres. Et elles n'arrivent pas par miracle. Elles arrivent parce qu'on est syndiqué et parce qu'on fait grève. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre et généraliser, étendre sur les mois, les années à venir pour gagner. Le pouvoir n'a jamais été aussi isolé, faible et en difficulté. Il faut quand même se dire que Macron ne sait pas qui, la semaine prochaine, il va prendre comme premier ministre. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. D'accord, la NUPES est minoritaire, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ce qui fait qu'il tient, c'est 2 choses, et il faut le savoir. La première chose, c'est les institutions de la Ve République qui sont un problème. Et ça, c'est plus seulement une question de spécialistes, c'est un problème pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est le Rassemblement national. On n'en a pas parlé ce soir, mais le fait que l'extrême droite soit à un niveau inédit et que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir, c'est comme ça que Macron tient, c'est pour ça qu'il les alimente, parce que c'est ça où il fait, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, bah, il se dit « je suis à l'abri », parce qu'il n'y aura pas forcément d'alternative à gauche. Et donc, nous, dans nos combats, il faut faire converger les luttes, il faut syndiquer, mais il faut aussi amplifier la bataille contre l'extrême droite qui est aujourd'hui le premier adversaire des travailleuses et des travailleurs et qui explique le fait qu'on n'ait pas réussi là à gagner sur cette mobilisation notamment.
Rachel, toi, l'extrême droite à l'Assemblée nationale, tu les vois tous les jours ?
Tous les jours.
Ouais. Tu peux terminer là-dessus si tu veux, mais libre à toi de nous apporter autre chose pour ce mot de la fin, si tu le souhaites.
D'accord. Mais moi, pour finir, je vais parler un peu de l'extrême droite pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants mangent ensemble, on se fréquente, on marche ensemble, on fait tout ensemble. Normalement, le racisme ne doit plus rester entre nous parce qu'on est quand même au 21e siècle. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit se mettre ensemble pour combattre. Parce que la politique du Rassemblement national, tout le monde est victime de ça. Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je suis désolée, aujourd'hui, on dit, non, moi, je ne veux pas le blanc. Non, 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 c'est le blanc. Non, non, ils sont pareils. Non, ce n'est pas ça, c'est la politique. C'est pour ça que je dis, même si on est jaune, vert, rouge, de toutes les couleurs, on doit se mettre ensemble pour lutter contre ça. Parce qu'on n'a pas le choix, on vit ensemble. On n'a pas le choix. Il ne faut pas qu'on laisse le racisme venir nous diviser. Voilà. Donc moi, ça, c'est ma première chose. Maintenant, le Rassemblement national, comme a dit Sophie, Macron, il vit de ça. Voilà, Macron, il vit de ça. Donc aujourd'hui, on voit même sur les médias pour dire les prochaines élections, c'est Marie Le Pen qui est à la tête, c'est Marie Le Pen qui sera élue. Déjà, on met ça déjà dans la tête des gens. Pourtant, c'est faux. C'est faux, c'est les médias qui le disent. Mais les unes n'ont rien dit encore. Nous, on attend pour aller aux unes. C'est là-bas où on décide, ce n'est pas les médias qui décident. Voilà. Donc, le Front national est là. Nous, on les comprend, on ne vote pas ensemble avec eux parce qu'on n'aime pas leurs idées. Voilà, les idées ne vont pas ensemble, on n'aime pas leurs idées. Donc, on ne peut pas voter avec le Front national. On ne peut pas voter avec eux. Donc, moi, ce que je vais dire aujourd'hui dans la lutte, je vais dire, la lutte n'est pas facile. La lutte est très difficile. Mais quand même, il faut aimer le combat. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se mettre en lutte. Il faut aimer. C'est-à-dire, quand les syndicats lancent un appel, il faut sortir. Il ne faut pas dire non, moi, je n'aime pas la lutte, je suis fatigué, non, ça ne va pas aller, ça va aller nulle part. Car en tout, se décourager. On ne se décourage pas. Parce que si nous, on était découragés, on n'allait pas faire 22 mois. Si nous, on était découragés, on n'allait pas faire 22 mois. Si les Verts Baudet étaient découragés, elles n'allaient pas gagner. Si Jody s'était découragé, ils n'allaient pas gagner. Donc la lutte s'impose à nous. On n'a pas le choix. Avec le gouvernement qu'on a, la lutte s'impose à nous. Donc quand le syndicat s'organise pour lancer un appel, tout le monde doit sortir. Que tu sois jeune, vieux, âgé, je ne sais pas si tu as ta canne, tu as tes fauteuils roulants, tu sors, tu viens manifester. Tu sors, tu viens manifester. Et quand on vient manifester, il faut danser parce que ça donne de la force. Il faut danser, il faut faire la lutte dans la joie aussi. Ça fait partie. Parce que nous, à l'époque, on faisait la grève de l'hôtel Ibis les Batignolles, on mettait notre musique, même en plein hiver, on dansait. Souvent, le directeur d'Ibis, d'Ibis les Batignolles, il regarde par la fenêtre, il regarde comme ça. Parce que lors de notre fin de grève, encore, on nous disait, mais comment vous avez fait pour tenir? Et si on nous disait, mais vous êtes courageux, comment vous avez fait? Mais parce qu'en dansant, on ne leur montrait pas qu'on était fatigué. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de les épuiser. Et ils ne viennent pas vite à la table de négociation. On va les épuiser, les écraser. Arrivé un moment, ils vont abandonner. Voilà. Donc moi, je lance un appel. Je vous lance un appel. Il ne faudrait pas qu'on abandonne les luttes. Et il ne faudrait pas qu'on mette la fatigue au devant des luttes. Quand on commence, on est parti. C'est quand l'avion décolle, ça ne fait pas marche arrière. Quand l'avion décolle, il n'y a pas de rétroviseur. L'avion, il part. Donc, dans la lutte, doit être comme ça. On ne doit pas avoir de rétroviseur comme ça pour regarder, pour dire non, je ne continue pas. Dans la réforme de retraite, j'espère que les syndicats vont lancer un appel. Comme j'ai dit, on part en vacances, on va manger du couscous, on va prendre des gratins de pommes dauphinois avec les grosses cuisses au four. On revient pour reprendre la lutte au mois d'octobre. Soyez prêts. Quand le syndicat lance un appel, il faut qu'on soit prêt pour descendre massivement dans la rue. Et on va gagner. C'est comme ça que nous allons gagner. Et n'oubliez pas, l'union fait la force. Merci.
Merci beaucoup. Voilà un message très clair qui va dans le sens de ce que tu disais aussi, Sophie. Donc, ne lâchons rien, concrètement. Aurore, petit mot de la fin.
C'est difficile d'intervenir après Rachel. Non, peut-être deux petites choses. Moi, j'étais très d'accord avec la nécessité de pousser les gens à syndiquer. Et je pense que c'est quand même, heureusement, un des acquis d'ailleurs de cette mobilisation. C'est qu'il y a eu une recrudescence du taux de syndicalisation. Beaucoup de gens ont été convaincus par le mouvement de la nécessité de se syndiquer. Mais je pense que en retour, et du coup, c'est un peu une invitation aux syndicalistes, parce que c'était aussi pour ça que je voulais faire ce débat. Nous, les féministes, qui sommes aussi syndiquées par ailleurs, on invite les syndicalistes à participer aux AG qu'on organise. Du coup, on fait une AG féministe Paris-Banlieue pour cette région-là. Mais en fait, on a lancé plein d'AG dans toute la France pour organiser la grève féministe pour le 8 mars. On a déjà pas mal de syndicalistes parce que voilà, à chaque fois, je délimite, mais c'est artificiel. Bien sûr, il y a plein de gens entre les deux. Mais du coup, ce serait super si la CGT poussait en fait, les femmes et les minorités de genre à participer à nos AG justement pour essayer de construire le 8 mars prochain et puis aussi tous les enjeux de lutte qui sont devant nous spécifiquement féministes, à commencer par l'enjeu de l'avortement quand même qui est une grosse question et je pense que du coup en septembre ce serait l'occasion éventuellement de converger pour la journée justement de défense du droit à l'avortement. Voilà, le 28 septembre. Donc voilà, pour conclure un peu une invitation en profitant de l'occasion. Voilà.
Merci, merci beaucoup.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.